Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Aliette Ovin, Cédric Fuentes, Arjona Andrade et Louis Drillon. À la réalisation, Elisabeth Miro, prise de son, Anthony Thomasson.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Après l'époque de la grande paix au Japon entre le XVIIe et le milieu du XIXe siècle, voici venue peut-être celle des grands bouleversements. En 1854, sous la menace des canons américains, l'Empire du Soleil Levant sort de son isolement après 2 siècles de fermeture. La dynastie des Tokugawa va alors s'effondrer, cédant la place à l'ère Meiji, l'ère de la modernité. En moins de 45 ans, le Japon féodal va devenir l'une des nations les plus avancées du monde. Alors quelles conséquences cette modernisation à marche forcée va-t-elle avoir sur la société et sur l'économie japonaise? C'est ce que nous allons voir dans l'heure qui vient. Il est 14h sur France Culture et 21h au Japon. Bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Nous allons explorer la modernité Meiji et ses limites en compagnie de Bernard Thoman, responsable du master études japonaises à l'INALCO, en compagnie également de Christine Lévy, maîtresse de conférence en études japonaises à l'université Bordeaux-Montaigne en duplex de France Bleu Gironde. Et en fin d'émission, on retrouvera Arjuna Andrade qui nous donnera des nouvelles de l'écho.
Supposons qu'un petit pays, en retard sur le chemin de la civilisation, relève la tête, se dresse de l'extrémité de l'Asie pour bondir et intégrer les frontières de la liberté et de la fraternité. Il se mettrait à démanteler ses fortifications, à fondre ses canons, à remplacer ses vaisseaux de guerre par des navires marchands, à transformer ses soldats en citoyens, à appliquer avec ardeur les principes moraux, à apprendre des techniques industrielles. Il se métamorphoserait ainsi en un parfait disciple de la philosophie. Les élites des pays occidentaux, si fières de leur civilisation, n'auraient plus qu'à rougir en leur fort intérieur. Mais supposons encore que, faisant preuve non seulement d'absence de scrupules, mais de plus de cruauté et d'acharnement, et profitant de notre désarmement, ces pays civilisés nous attaquent avec une extrême violence, et qu'à cela nous leur répondions sans diriger aucune arme contre eux, sans charger aucune balle, avec respect et politesse. Que leur resterait-il à faire ? Brandir une épée, aussi affûtée soit-elle dans l'air, ne changera rien au mouvement et à la circulation de l'air. À nous de ressembler à cet air.
Christine Lévy et Bernard Thoman, bonjour.
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 Et merci beaucoup d'être avec nous. Alors, on vient d'entendre un extrait du dialogue politique entre trois ivrognes de Nakae Shomin, lu par Aliette Ovin de l'équipe d'Entendez-vous l'écho. Shomin a été l'un des chroniqueurs de cette période de formidable bouleversement pour le Japon, Christine Lévy.
Oui, tout à fait, oui. Donc, on prononce Shomin en japonais. Il est parti en France très tôt. Il venait d'une province de Shikoku, hein, l'île de Shikoku. Et il est parti avec la mission Iwakura, qui comprenait la moitié du gouvernement, du nouveau gouvernement, et 50 fonctionnaires et étudiants qui sont partis faire un voyage d'études en Occident, justement. Donc, il a vécu 2 ans, de 72 à 74, en France, à Lyon et à Paris. Et il est revenu au Japon, où il a créé une école d'études de français. Et ce texte, cet extrait de texte que vous avez lu, est publié en 1887. C'est un peu un bilan, le bilan du mouvement pour la liberté et les droits démocratiques, et qui marque la seconde décennie de Meiji, de 1874 à 1884, où un mouvement politique prend une ampleur considérable au cours de cette décennie et va devenir un mouvement qui va toucher, y compris la paysannerie tout entier, à travers le Japon. Donc oui, c'est un extrait vraiment intéressant où on voit qu'il est surtout, le passage indique bien qu'il y a un aspect philosophique très important aussi dans ce texte.
Une première réaction, Bernard Thoman, à cet extrait de Shomin qu'on appelle parfois le Rousseau japonais.
Oui, alors on voit bien l'espace qu'il pouvait y avoir entre, je veux dire, la philosophie et les réalités géopolitiques de l'époque, parce qu'un des slogans de la restauration Meiji, c'est Fukoku Kyohei, qui veut dire « un pays riche, armée forte ». C'est-à-dire que enrichir le pays par l'introduction d'économies de marché, l'industrialisation, pour pouvoir construire une armée forte qui pourra se défendre. Alors, mais dans le même temps, C'est le paradoxe du Japon de cette époque. Vous avez effectivement un désir de répondre à ce qu'on appelle, à ce que des historiens ont appelé des normes de civilisation. C'est-à-dire se conformer à une certaine idée de la civilisation. Et c'est pour ça aussi qu'on parle des Lumières. Et effectivement, on voit bien là tout le paradoxe de ce Japon qui est confronté à la pression des pays coloniaux occidentaux.
Christine Lévy, est-ce que cette comparaison entre l'ère Meiji et les Lumières françaises vous paraît pertinente et pourquoi est-ce qu'on parle justement aussi des Lumières? C'est aussi parce que le nom même de Meiji signifie Lumière.
Oui, alors le nom même de Meiji, c'est une référence à un texte ancien, le livre des mutations de la Chine classique, donc de plusieurs millénaires. Et donc le nom de Meiji lui-même ne fait pas vraiment référence aux lumières occidentales, hein, puisque c'est plutôt le nom qu'on donne à l'empereur dans le cadre là de la restauration de la légitimité unique de l'empereur face à la disparition du shogunat. En revanche, les Lumières, c'est effectivement un terme qui est utilisé par les intellectuels, les penseurs de l'époque. Donc il y a quand même deux niveaux, c'est-à-dire l'aspect politique qui est plutôt le retour à une nomenclature classique de l'antiquité japonaise qui elle-même est issue de l'antiquité chinoise, alors que chez les intellectuels, effectivement, on parle des Lumières, mais c'est un autre mot que Meiji. C'est pas du tout le même terme. C'est l'ouverture à la civilisation, l'ouverture à la culture, mais vraiment le mot d'ordre de cette époque, je pense, c'est le terme de civilisation. C'est un mot clé, on n'emploie pas le terme de moderne, modernité, c'est un terme qui va apparaître après les années, plutôt dans les années 1910. Et donc là, ce que nous, on appelle modernité, pour les contemporains de Meiji, c'est la civilisation, et la civilisation, c'est la civilisation occidentale à cette époque-là.
Alors comment l'ère Meiji advient-elle ? Revenons à cet épisode de 1854. Sept navires de guerre du commodore américain Perry se présentent dans la baie d'Edo, qui deviendra plus tard Tokyo, et obligent le Japon à sortir d'un isolement vieux de deux siècles, Bernard Thomas.
Oui. Alors, les bateaux arrivent en 1853 et ils reviennent en fait, parce qu'on donne donc au shogunat un temps de réflexion et ils reviennent l'année suivante. Et c'est à ce moment-là, après avoir débattu avec les principaux seigneurs, aussi avec la cour impériale, hein, c'est une des premières depuis longtemps qu'on demande son avis à la cour impériale, on décide finalement, je vais dire, de signer ce traité, hein, le traité dit de Kanagawa, qui effectivement ouvre deux ports de relâche, disons deux ports qui ne sont pas stratégiques, hein, qui sont le port de Hakodate, au sud de l'île de Hokkaido, et puis le port de Shimoda, qui se trouve à peu près à 150 km d'Edo à l'époque. Simplement, cette ouverture, c'est évidemment un très grand choc, parce que ce traité donc d'amitié sera suivi de traités de commerce en 1858, qui sont en fait des traités inégaux, qui sont calqués sur les traités qu'ont signé les puissances, notamment la Grande-Bretagne avec la Chine, et qui sont des traités humiliants. On les appelle les traités inégaux. Et c'est un grand choc parce que le Japon ressent ça comme une humiliation, et en particulier les fiefs qui sont les plus à la pointe de l'idée de restauration impériale et d'une idée nationaliste qui commence à germer, de fierté nationale.
Ce sont ces traités inégaux de 1858 qui entraînent notamment, 10 ans plus tard, l'abdication du dernier shogun de la dynastie Tokugawa, qui détenait alors le pouvoir politique, Christine Lévy.
Oui, mais par un processus assez complexe, c'est-à-dire que cette signature qui se fera sans l'aval de l'empereur va donner prétexte à toutes les forces qui sont pour la restauration du pouvoir unique de l'empereur de se mobiliser, justement parce qu'il a été signé par le shogunat seul. Et que une des les conséquences économiques ont été assez catastrophiques. Donc, dans l'immédiat, il y a eu une hémorragie de l'or qui a duré 6 mois, mais qui a été quand même très très importante du fait du taux de change qui est très différent entre l'argent et l'or au Japon. Donc, c'était l'or valait beaucoup moins que sur le plan international, et aussi sur le plan ça a déstructuré la structure commerciale du Japon, qui est attaquée à ce moment-là du fait de l'exportation très importante de certaines matières premières comme le thé vert, la soie, et après aussi le riz. Et donc ça désorganise le commerce intérieur et donc la vie quotidienne aussi des gens donc qui sentent qui sont en quelque sorte touchés par cette désorganisation, et qui va être aussi à la base de mouvements de mécontentement.
Alors on va reparler de ces mouvements de mécontentement. D'abord, les historiens ont souvent vu cette période comme une occidentalisation du Japon. Voilà ce qu'écrit le romancier Tanizaki Junichiro dans Louange de l'ombre, l'un des chefs-d'œuvre de la littérature japonaise, publié en 1933.
Quel mal y a-t-il à réfléchir à ce que nous abandonnons aux Occidentaux ? En un mot, l'Occident a crapahuté dans la bonne direction pour parvenir à l'époque actuelle, là où nous autres, croisant le chemin de cette excellente civilisation, en sommes à dévier de la direction que nous suivions depuis des millénaires. De là viennent sans aucun doute les inconvénients et les difficultés d'ajustement de toutes sortes que nous rencontrons. Enfin, si nous étions restés à errer de notre côté, sans doute n'aurions-nous pas énormément évolué aujourd'hui par rapport à il y a 500 ans, matériellement parlant. Tout du moins aussions-nous pris une direction qui s'accordait à notre mentalité. Et qui sait, peut-être un jour, après avoir longtemps cheminé, à la place des tramways et des trolleys, de l'avion et de la radio, aurions-nous fini par inventer des outils civilisés qui nous auraient convenu, au lieu de ceux que nous empruntons à d'autres.
Un extrait lu par Cédric Fuentes de l'équipe d'Entendez-vous l'écho. Que nous dit ici Tanizaki Junichiro, qui est quasiment né avec l'ère Meiji, puisqu'il est né en 1867, Bernard Thomann?
Il regarde la restauration Meiji quand même plus de 60 ans plus tard. Donc évidemment, ce qu'il dit nous dit beaucoup des années 30, mais ça ne dit pas automatiquement ce que les gens à l'époque du début de Meiji ou de la fin de la période Edo pensent. Néanmoins, ça montre quand même l'ambivalence des Japonais vis-à-vis de la modernité et d'occidentalisation, parce que un des slogans les plus qui marque le début de l'ère Meiji, c'est esprit japonais, science occidentale. C'est-à-dire que pour un certain nombre d'intellectuels, il faut évidemment introduire la science occidentale pour pouvoir développer l'industrie, renforcer l'armée, mais il faut garder l'éthos japonais. Et c'est quelque chose que l'on voit bien dans les références constantes qu'il y a à l'époque à la civilisation chinoise, à la tradition chinoise. Parce que la plupart des intellectuels de cette époque sont... ont été éduqués au confucianisme japonais, et ils pensent dans des catégories du confucianisme chinois. Et même les plus grands réformateurs, ceux qui veulent par exemple introduire l'esprit de l'économie de marché, promouvoir le commerce, alors que le commerce était méprisé pendant la période Edo, essayent de justifier ces changements en faisant référence parfois à Confucius. Par exemple, un des grands architectes de l'instauration du capitalisme japonais, qui est Shibuzawa Eichi, qui a créé beaucoup d'entreprises, et qui a été un des architectes de la création du système bancaire, écrit par exemple un ouvrage qui s'appelle « Les entretiens de Confucius et le boulier », où il essaye d'expliquer que le confucianisme ne condamne pas le commerce. Et il fait donc référence à une tradition confucianiste chinoise pour justifier le commerce. Vous voyez toute l'ambivalence.
Alors l'un des grands bouleversements de l'ère Meiji, c'est l'abolition des statuts en 1872. La société désormais n'est plus divisée, Christine Lévy, entre les guerriers, les paysans, les artisans et les commerçants.
Oui, oui, tout à fait. Oui, ça fait partie des réformes du début de l'ère Meiji. Bon, les conséquences immédiates vont surtout toucher la classe des guerriers. Hein. C'est eux qui vont être...
Les samouraïs.
Oui, les samouraïs qui vont être les plus touchés par ce changement de statut, puisque la paysannerie, elle reste paysanne, même si bien sûr il y a les réformes, mais c'est plutôt c'est la réforme de l'impôt foncier hein, qui va avoir des conséquences très importantes sur la structure de la propriété des paysans.
Et quelles conséquences cela va avoir sur les samouraïs?
Alors, samouraï, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir donc la suppression des privilèges et surtout le fait que les samouraïs ne seront plus des personnes qui seront rémunérées par les seigneurs, parce que cette suppression de statut est aussi suit aussi l'instauration des départements, la suppression des fiefs, et donc l'État va prendre en charge en principe la rémunération de cette classe de samouraï qui représentait quand même 6 à 7% de la population, et que ça sera un budget qui va être beaucoup trop lourd pour le nouvel État qui veut s'industrialiser et qui va donc mener des politiques pour alléger la charge que représentent les indemnités à payer des samouraïs.
Donc les samouraïs vont considérablement s'appauvrir.
Oui, ils vont considérablement s'appauvrir. Ils vont perdre aussi le privilège du port du sabre. Et il y aura la création d'une armée, une conscription, une armée de conscription hein, dès 1873. Et donc qui met complètement à bas les privilèges des samouraïs. C'est-à-dire qu'on ne compte plus sur eux pour la force militaire. Donc c'est vrai que c'est... immédiatement, c'est vraiment la classe des samouraïs qui en pâtit le plus. Avec certains samouraïs vont, on parle à l'époque de commerce de samouraïs dans un sens péjoratif parce que justement dans le confucianisme, ils étaient dans la catégorie lettrés qui méprisaient le commerce et donc sont très peu au courant des méthodes de gestion commerciale.
Et en même temps, donc Christine Lévy l'évoquait, cette abolition des fiefs en 1871 donne à la population la liberté de circuler. C'est ce qui entraîne la création au Japon d'un prolétariat moderne, désormais libre de vendre sa force de travail, Bernard Thomann.
Alors, la naissance du prolétariat industriel ne va pas se faire en quelques jours. Elle va être progressive. Mais je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Christine Lévy tout à l'heure, qui a évoqué la réforme de l'impôt foncier hein, de 1873. C'est une réforme absolument essentielle. Parce que jusque-là, l'impôt était payé par les villages et c'était un pourcentage de la récolte. Et ce n'était pas un impôt qui était payé individuellement, mais collectivement par le village. Si la récolte était mauvaise, le risque, en quelque sorte, était partagé par le seigneur. Là, c'est un impôt qui est calculé sur la valeur monétaire de la culture, hein, de la parcelle. Donc, parallèlement à cette mise en place de l'impôt foncier, on va calculer la valeur monétaire de plus de 80 millions de parcelles de culture au Japon et on va faire des paysans des propriétaires. Mais des propriétaires, des petits propriétaires, souvent très petits même, qui doivent payer un pourcentage donc de la valeur monétaire de leur terre qui est fixe et qui ne varie pas en fonction de la récolte. Et ce qui fait que, alors dans un premier temps, les historiens ont considéré que ça ne va pas véritablement être...
Avoir un impact sur le niveau de vie des paysans.
Avoir un impact sur la vie des paysans. Mais ça va surtout avoir un impact après ce qu'on appelait les réformes de Matsukata, donc en 1881. Vous avez une politique déflationniste, et là il y a un effondrement des prix, et là il y a énormément... de petits paysans qui ne seront plus en mesure de payer cet impôt qui ne varie pas. Et ces paysans vont souvent tomber en métayage, c'est-à-dire qu'ils vont devoir vendre leurs terres ou ces terres vont être confisquées et ces paysans donc vont devenir en fait des prolétaires des campagnes. Et c'est eux qui vont nourrir la main-d'œuvre industrielle plus tard, en grande partie.
C'est ce qui explique, Christine Lévy, les contestations de plus en plus importantes du monde agricole au début de cette ère Meiji.
Oui, tout à fait, oui. Alors, je pense que Bernard a bien expliqué ce changement de système, et c'est un changement, là, c'est vraiment un changement fondamental, puisque le régime de propriété était celui, formellement en tout cas, qui avait été mis en place en 645. Donc vraiment, là, je pense qu'on peut parler de révolution foncière, pratiquement. Il y a une première série de révoltes très importantes dès les années 1870, en particulier lorsque se développe un mouvement pour l'appel une assemblée nationale, les paysans vont s'intégrer dedans, puisque dès que l'impôt est fixé à 3% de la valeur monétaire, parce que ce qu'il y a aussi, c'est que l'impôt désormais doit être payé en argent. Donc les paysans doivent vendre sur le marché, etc. Et là, les révoltes sont très importantes, à tel point que le gouvernement va reculer assez vite et va faire passer ce taux d'imposition de 3% à 2,5%. Pratiquement, toutes les régions se soulèvent contre cet impôt et aussi contre la conscription, parce que la conscription fait très peur, d'autant plus que ça veut dire une perte de main-d'œuvre et en plus une main-d'œuvre précieuse des jeunes hommes. À l'époque, le service militaire étant de 3 ans, hein, ça pouvait ruiner une famille.
Et puis ensuite, les samouraïs instrumentalisent les révoltes paysannes et provoquent même une guerre civile en janvier 1877 à Satsuma.
Oui, alors là, c'est vraiment la révolte des samouraïs. Ils n'instrumentalisent pas vraiment, on peut dire que, d'autant plus qu'à Satsuma, la population samouraï et paysanne n'était pas vraiment distincte. C'est-à-dire que les régions qui avaient été soumises après la victoire des Tokugawa, comme Satsuma ou à Shikoku, sont des régions où les militaires ont eu l'autorisation de garder des terres, ce qui n'était pas le cas dans d'autres régions. Donc on avait beaucoup de paysans militaires qui n'étaient pas riches du tout. Donc il n'y a pas d'instrumentalisation. En fait, il y a des intérêts communs entre des paysans et des samouraïs dans ces régions-là. Hein. Ça explique un peu la mobilisation aussi dans cette région. Ce qu'il y a, c'est qu'après la déflation de Matsukata, le mouvement paysan, lui, va se radicaliser de façon considérable, parce qu'effectivement, une des conséquences, ça va être que beaucoup de paysans seront acculés à vendre leurs terres, ils sont petits propriétaires, et une prolétarisation qui va commencer effectivement dans les années 1890, parce que beaucoup de fils de paysans seront obligés d'aller en ville pour trouver du travail, ne pouvant plus travailler la terre.
Alors une prolétarisation agricole, on l'entend bien, mais également ouvrière, industrielle, et cela d'autant plus qu'avec l'ouverture donc des ports japonais aux marchandises occidentales à partir de 1854, comme on l'a vu, de nouveaux secteurs se développent, Christine Lévy.
Oui, alors les nouveaux secteurs, c'est d'abord comme un peu partout, c'est d'abord le textile, hein, qui va être le moteur de la révolution industrielle au Japon. Donc la première révolution industrielle, on peut dire dans les années 1880, c'est le textile qui se développe beaucoup dans la région près de Osaka, où la main-d'œuvre est à majorité féminine. Ce sont surtout les filles, effectivement, de la campagne qui sont mobilisées dans ces secteurs. Mais il va y avoir aussi parallèlement des initiatives prises par l'État pour l'industrialisation, c'est-à-dire des usines modèles dans tous les secteurs qui sont créés, et aussi le chemin de fer. Hein, le chemin de fer avec la création de la première ligne entre Yokohama et Tokyo en 1872. Et comme l'a expliqué Bernard Thomann, le mot d'ordre central, c'est un pays riche, une armée forte, et donc il faut développer ces industries.
Et le textile, c'est un réel succès, puisqu'au début du XXe siècle, l'archipel devient le premier exportateur mondial de soie.
Oui, tout à fait, oui. De soie, et puis assez vite aussi
De coton.
De textile en Asie. Oui, de coton, hein, la soie, et puis le coton, ça va devenir... oui, le Japon va devenir le premier exportateur mondial dans les années 1910-1920, à l'issue de Meiji, oui.
Et parallèlement à ce mouvement, Bernard Thomann, on a toute une urbanisation qui se développe.
Oui, bien sûr, l'urbanisation, alors elle commence effectivement avec la première... Alors, elle commence en partie avec la première révolution industrielle parce que vous avez... Disons, les usines textiles du coton sont plutôt effectivement urbaines puisque le coton est souvent importé, hein, notamment d'Inde. Par contre, beaucoup d'usines, la plupart des usines textiles de soie, les filatures de soie, elles sont plutôt à la campagne parce que le verre à soie est cultivé dans les montagnes. Donc là, il y a effectivement l'urbanisation. Elle se développe progressivement. Elle va surtout en fait être très très spectaculaire avec la première, à partir de la Première Guerre mondiale. Hein. Néanmoins, elle se développe et dans les villes, vous avez l'apparition de bas-fonds qui sont parfois liés à toutes sortes de petits travaux des villes. Il y a toutes sortes de petits métiers qui se développent, tels que tireur de pousse-pousse, par exemple. C'est un métier qui n'existait pas, hein, pendant la période Edo et qui se développe pendant l'ère Meiji. Donc, ces petits métiers. Mais vous avez aussi, évidemment, les ouvriers et les ouvrières. Donc, des bas-fonds où les conditions de vie sont extrêmement précaires et susceptibles de provoquer des épidémies aussi, parce que ça, c'est très important.
Alors, vous l'avez dit, cette population ouvrière croît lentement et on distingue alors plusieurs types d'ouvriers, Christine Lévy, des ouvriers qui ne sont pas forcément plus privilégiés les uns par rapport aux autres.
Oui, enfin, ça dépend. C'est-à-dire qu'il y a les premiers mouvements qui vont sensibiliser les journalistes, les intellectuels, ce seront les mouvements des mineurs. Donc ça, c'est il y a des mines qui sont exploitées depuis l'époque Edo, mais qui vont se perfectionner, hein, durant la fin, juste avant Meiji et après Meiji. Et donc là, il y a un développement du travail de la mine dans des conditions assez difficiles. Et donc il y aura les formes de lutte là prennent un caractère d'émeute parce que il y a quand même une différence qui est introduite entre avant et après Meiji dans le système disons d'exploitation. Du fait de la systématisation et du fait de creusement de mines plus profondes, il devient assez difficile de recruter étant donné les conditions de travail. Donc il y a une part de prisonniers qui vont travailler dans ces mines et ça va créer des conflits puisque il y a une détérioration très importante des conditions de travail.
Et ça va contribuer à former une image, pardon de vous interrompre, mais très très négative des mineurs dans la société japonaise, Christine Lévy.
Oui, enfin négative, en tout cas comme des gens un peu à part. Oui, c'est vrai. Ils sont un peu ils sont vus comme des personnes exclues de la société, donc ça sera très différent des travailleurs de la métallurgie, de l'imprimerie, qui sont des secteurs qui vont se développer où là il y aura une syndicalisation de type plus moderne. Il y a aussi bon ce que Bernard Thomann a décrit qui sont des phénomènes très bien décrits par des journalistes de l'époque. Il y a deux journalistes qui vont mener des enquêtes sur les bas-fonds de la société japonaise. À l'époque Meiji, on a quand même des descriptions assez importantes sur les différentes catégories d'ouvriers. Donc il y a beaucoup aussi de travailleurs journaliers, hein, dans différents secteurs, dans les transports, dans les travaux divers et variés. Il y a aussi des ouvriers journaliers qui travaillent pour certains types d'artisans, alors qu'il y a aussi des ouvriers artisans qui ont une place importante, qui représentent plutôt un secteur traditionnel. Et puis il y a aussi les charpentiers, puisque, et en particulier les charpentiers dans la marine, vont devenir des ouvriers qualifiés très importants, hein, avec le développement des arsenaux. Parce que les premières grandes industries, c'est aussi les arsenaux pour la construction de navires militaires.
Alors, on a parlé de la disparition de ces statuts, mais alors comment la société se reconfigure-t-elle, Bernard Thomann? Elle est composée désormais à 90% de roturiers, et il y a une nouvelle catégorie qui apparaît, c'est celle des nouveaux roturiers.
Oui, alors effectivement, on voulait sans doute parler des anciens castes de type État.
Qui sont ces castes qui ont été longtemps discriminés, oui, et qu'on inclut dans cette catégorie des nouveaux roturiers?
Alors effectivement, pendant la période Edo, vous avez eu une catégorie de la population qui était en dehors de ces des quatre statuts, disons, majeurs, et qui étaient liés, en fait, d'une part à des métiers qui étaient considérés comme impurs, liés aux animaux morts, par exemple, mais aussi cette catégorie a considérablement grandi pendant la période Edo, parce que les crises agricoles ont fait qu'un certain nombre de paysans ont été jetés sur les routes, sont devenus des vagabonds, ont intégré les grandes villes et ont été intégrés finalement dans ces, on peut dire, castes inférieures, et notamment dans la caste des Hinin, les non-humains. Et ils sont donc déjà assez nombreux dans les villes au moment de la restauration Meiji. Et c'est vrai que, d'une part, on les affranchit en quelque sorte, mais d'un autre côté, sur leur état civil, il y a encore une marque qui les stigmatise, effectivement.
Et ils
vont, oui, une discrimination. Alors, ils vont notamment, ils sont plus ou moins nombreux selon les régions. Et par exemple, dans les mines, un des facteurs qui fait que le travail de la mine est assez mal vu, c'est aussi que dans le Chikuro, par exemple, dans les mines qui se trouvent à Kyushu, il y a un certain nombre ce qu'on appelle les Bulakumines qui, effectivement, travaillent.
L'ère Meiji, Bernard Thomann, c'est aussi une période d'explosion démographique, notamment grâce à la baisse de la mortalité et à l'augmentation phénoménale de la production agricole. C'est le début de l'hygiénisme à cette période-là.
Oui, alors, effectivement, la population va augmenter considérablement à partir donc du début de l'ère Meiji, puisque vous avez environ 30 millions d'habitants au début de l'ère Meiji, et vous en aurez le double, à la veille de la Première Guerre mondiale. Donc, la population augmente considérablement, et les campagnes sont le phénomène d'un phénomène relativement paradoxal, puisque d'un côté, il y a une augmentation de la productivité agricole qui fait que les campagnes sont capables de nourrir cette nouvelle population, même s'il y aura toute une question de surpopulation et de problèmes de capacité du Japon à nourrir sa population qui va être posée dans les années 1920. Néanmoins, hein, les faits sont là, l'agriculture a pu nourrir sa population, l'agriculture japonaise. Néanmoins, d'un autre côté, il y a effectivement, je veux dire, un appauvrissement très important d'une partie de la population agricole.
Et comment expliquer cette baisse de la mortalité qu'on constate, Christine Lévy ?
Je pense qu'il s'agit aussi d'une politique nataliste très importante. Hein. C'est-à-dire qu'à l'époque Edo, la paysannerie avait tendance à exercer un contrôle de naissance par des moyens artificiels. C'est-à-dire qu'il y avait le phénomène du mabiki, qui pouvait être un avortement ou encore plus souvent l'infanticide. Par la volonté de la paysannerie de ne pas disperser les terres. Alors que dès 1868, l'avortement est interdit et il y a une politique très importante de nataliste, hein, puisque dans le mot d'ordre Fukoku-kyohei, une armée forte, elle est basée sur la conscription, donc il faut beaucoup d'enfants. Là, il y a vraiment une volonté, une politique systématique, un encouragement à développer des familles nombreuses. Et les mots d'ordre dans les années 1930 hein, jusqu'en 45, ce seront adressés aux femmes, c'est donner naissance, augmenter la population. Et donc il y a un système aussi d'encouragement systématique aux naissances.
Bernard Thomann.
Oui, la question de l'hygiénisme est extrêmement importante. Hein. Effectivement, la baisse de la mortalité est dû, bien sûr, je veux dire, au progrès de l'agriculture, mais en même temps, hein, les historiens l'ont très bien montré, est dû aussi et beaucoup au progrès de l'hygiène. Et l'hygiénisme devient une science de l'État centrale dans la politique de modernisation assez tôt, en fait, très rapidement, parce que avec l'ouverture du pays au commerce international, vous allez avoir, en quelque sorte, le pays devient beaucoup plus vulnérable face aux épidémies.
L'hygiéniste devient une nécessité.
Oui, voilà, c'est une nécessité. Il faut défendre la nation face aux microbes. Et donc, beaucoup de jeunes japonais vont aller étudier dans les facultés de médecine, et notamment les facultés de médecine allemande, vont revenir et vont instaurer un système de santé publique au Japon qui va être véritablement considéré comme essentiel par le gouvernement lui-même, puisqu'il va créer très tôt, hein, dès les années 1870, un bureau de l'hygiène au sein du ministère de l'Intérieur, pour lutter donc contre les épidémies de choléra, et par la suite aussi d'autres épidémies, comme des épidémies de peste ou des épidémies de tuberculose.
Okidoub et nous, vous écoutez France Culture, entendez-vous l'écho. Nous sommes en compagnie de Christine Lévy, du Plex de Bordeaux, et de Bernard Thomann pour parler des transformations économiques et sociales de l'ère Meiji. Alors on a parlé des révoltes paysannes, mais il va y avoir évidemment des conflits ouvriers tout au long de cette période. Et dans un premier temps, Bernard Thomann, ce sont surtout les mineurs qui se soulèvent, comme on commençait à le dire tout à l'heure. Alors quelle forme ces conflits prennent-ils, et surtout quelles sont les revendications des mineurs?
Oui, alors effectivement, les conflits dans les mines, les émeutes qui se produisent dans les mines dès les années 1870, notamment dans la mine de Takashima, qui est la mine la plus importante à l'époque, sont liés effectivement aux conditions absolument invraisemblables de travail. C'est un métier très dangereux et souvent ces mineurs sont soumis au pouvoir d'intermédiaire, c'est-à-dire qu'il y a un système de recrutement qui fait que ces mineurs sont recrutés par des recruteurs professionnels qui les amènent dans les mines et qui ensuite gèrent leur quotidien, c'est-à-dire gèrent les baraquements dans lesquels ils sont logés, leur prêtent de l'argent souvent, parce que ces mineurs qui vivent souvent seuls jouent à des jeux d'argent, s'endettent assez facilement et donc sont souvent endettés vis-à-vis de ces intermédiaires. Et ces intermédiaires les tiennent en quelque sorte par la force et par la violence. Un mineur qui veut s'enfuir de la mine peut être rattrapé et parfois exécuté ou battu à mort. C'est quelque chose, ce sont des choses qui ne sont pas rares. Et il y a un milieu d'extrême violence. Et donc, parfois, ces révoltes ne sont pas liées à des revendications très articulées, mais à une sorte de ras-le-bol de la situation dans laquelle ils sont plongés. Parfois, il s'agit aussi de revendiquer un meilleur statut, parce qu'ils sentent bien qu'ils sont méprisés par le reste de la société.
Ces intermédiaires, Christine Lévy, peuvent être des grandes familles locales, mais aussi des compagnies occidentales qui viennent exploiter à la fois les mines de cuivre, mais aussi les mines de charbon qui sont nécessaires à l'industrie.
Oui, bon, les recruteurs, ce ne sont pas les entreprises occidentales. Là, les entreprises occidentales vont fournir des ingénieurs au départ, mais les recruteurs, c'est un système qui existait au Japon déjà avant. On les appelait oyakata, qui veut dire le parent, et c'est un système plutôt issu de la société féodale qui persiste encore dans le travail des mines. C'est vrai que ce système va rester en place avec un chef pour chaque baraquement, avec des conditions de logement extrêmement précaires, et ce système aussi où les mineurs dépendent effectivement de ces recruteurs pour l'achat aussi de la nourriture, donc pour le logement, l'achat de la nourriture, etc.
Et quelle est la réponse qui est apportée à ces protestations, Christine Lévy, et des protestations qui apparaissent également dans les usines à ce moment-là?
Oui, oui. Alors, dans les mines, il y a eu des émeutes, et il y a eu aussi des émeutes qui ont fait la une de la presse. En tout cas, c'est le cas en 1878, lorsqu'il y a 2000 ouvriers de l'île de Takashima qui se soulèvent. Et ce sont des émeutes qui sont très durement réprimées, avec beaucoup de décès à chaque fois. Donc, la répression est très forte. Et l'État va aussi commencer à gérer ces mines, et dans un premier temps, à partir de 1873, et puis au moment de la déflation de Matsukata, ces mines vont être vendues à des entreprises comme Mitsubishi. C'est le cas de Takashima, qui sera vendu à Mitsubishi, où les conditions, à ce moment, s'aggravent encore plus. Donc là, je pense que Bernard Thomann connaît un peu mieux ce mouvement.
Oui. Alors, pour comprendre les conditions de travail extrêmement précaires, terribles des ouvriers de cette époque, il faut comprendre aussi comment fonctionne le capitalisme de cette époque. C'est un capitalisme extrêmement peu régulé qui se met en place. Alors, vous avez soit des grandes familles fortunées qui se lancent dans le capitalisme, mais vous avez aussi un système de entreprise par action aussi qui se met très tôt en place, et vous avez donc des grands propriétaires terriens, des anciens daimyo, des anciens seigneurs.
Les daimyo, c'est nous, sont voilà, donc les nobles.
En tout cas, les gens qui ont de l'argent à cette époque veulent investir dans des affaires extrêmement rentables. Et en général, les dividendes qui sont proposés sont extrêmement élevés. Et donc, il faut, en quelque sorte, extraire le maximum de cette main-d'œuvre. Et ça explique à quel point les conditions de travail sont très précaires.
Et il y a un événement qui va jouer un rôle important, c'est la guerre sino-japonaise de 1894. Elle va jouer un rôle sur le développement de l'archipel, parce qu'il va y avoir de grands bénéficiaires de cette guerre au Japon, et en particulier le nombre de banques qui explosent à cette période dans l'archipel, et puis les compagnies de chemin de fer aussi, qui vont bénéficier de la guerre.
Oui.
De quelle façon, Bernard Thomann?
Alors, la guerre sino-japonaise de 1894-1895, puis après il y a aussi la guerre russo-japonaise, je ne sais pas si vous voulez en parler, mais ces deux guerres en fait qui jouent un très très grand rôle dans le développement de l'économie japonaise, parce que il y a des commandes militaires importantes, ça stimule l'économie. Et puis après la guerre sino-japonaise, dans la première guerre sino-japonaise, vous avez des indemnités qui sont payées par la Chine et qui sont extrêmement importantes.
Et il faut peut-être réexpliquer le contexte. C'est une guerre qui se passe autour de la Corée, une guerre d'influence entre la Chine et le Japon.
Oui, bien sûr. Le Japon avait des vues sur la Corée dès les lendemains de la restauration Meiji, hein, ou de la rénovation Meiji. Certains historiens préfèrent parler de rénovation Meiji. Et dès le lendemain, le Japon voulait faire rentrer la Corée dans sa sphère d'influence. Dans les années 1870, il choisit finalement de ne pas aller en Corée. Mais il garde des vues sur la Corée. Et effectivement, la guerre russo-japonaise, c'est une guerre qui est menée...
Sino-japonaise.
Sino-japonaise, c'est une guerre qui est menée parce que le Japon perçoit l'intérêt des Russes sur cette péninsule. Et il estime qu'il faut en quelque sorte sécuriser le périmètre. Et il va donc effectivement réussir à imposer non pas un contrôle tel qu'il va l'avoir par la suite, mais il réussit à s'installer en quelque sorte sur le continent à cette époque.
Donc on a des bénéficiaires de cette guerre sino-japonaise. Il y a une forme d'euphorie à cette période. Mais toutefois, en 1897, l'économie japonaise entre en crise. L'année 1897, Christine Lévy, c'est l'année du record du nombre de grèves, 116 en tout. Et ce sont des conflits qui évoluent, puisque dans la décennie 1880, par exemple, les ouvrières du textile se mettent également en grève. On voit qu'il y a une transformation, une évolution de ces conflits ouvriers, Christine Lévy.
Oui. Alors, cette évolution, elle est liée aussi au fait que ça touche des secteurs différents, c'est-à-dire que les grèves de 1897 sont beaucoup plus nombreuses, touchent beaucoup plus de différents secteurs, alors qu'en 1880, ce sont des ouvrières qui protestent contre les conditions de travail qui sont très dures et contre des injustices. Il y a déjà aussi du harcèlement sexuel dès cette époque. Et donc, 97, c'est aussi le fait qu'il y a un retour de nombre d'émigrés japonais et qui, après un séjour d'une dizaine d'années aux États-Unis, reviennent au Japon après la guerre sino-japonaise et vont jouer un rôle très actif pour l'organisation de nouveaux syndicats. Et c'est ça aussi qui va stimuler la création de nouveaux syndicats à partir de cette date. Et bien sûr, il y a un contexte de crise, c'est-à-dire qu'il y a eu des dépenses militaires très importantes pour la guerre et puis ces dépenses continuent en vue de nouveaux conflits, hein, puisque le conflit avec la Russie va s'aggraver en ce qui concerne pas seulement la Corée, mais surtout la Mandchourie. Le conflit avec la Russie concerne aussi beaucoup le contrôle de la Mandchourie. Et c'est vrai que c'est la guerre sino-japonaise qui va donner aussi accès aux mines de charbon, aux mines de fer de la Mandchourie, et qui va permettre la naissance d'une métallurgie moderne au Japon après la guerre sino-japonaise. Et on aura un peu le même phénomène au lendemain de la guerre russo-japonaise, qui sera encore aggravée parce qu'il y aura une déception par rapport à toute la propagande qui avait été faite sur le fait que le Japon allait gagner. Et donc, il y avait une attente d'indemnité. Hein. Dans le cas de la guerre sino-japonaise, il y a
l'indemnité a été très importante.
Très importante, oui, qui ont vraiment ruiné la Chine, et encore plus au moment de la guerre des Boxers, en 1900. À ce moment-là, ce sera encore pire pour la Chine.
En revanche, pas d'indemnité pour la guerre russo-japonaise, qui est à quelle époque ?
En 1905. Hein, 1904 et 1905. Et donc, il y aura des émeutes qui vont éclater au retour du plénipotentiaire qui revient avec un accord sans indemnité de la part de la Russie.
Vous évoquez les syndicats, Christine Lévy. Je voudrais qu'on revienne un petit peu sur ces organisations qui commencent à se former. Est-ce qu'elles s'appuient notamment sur les kumiai qui existaient sous l'ère Edo, et quelles formes prennent-ils tout au long de l'ère Meiji, Bernard Thomann?
Oui, alors la question, disons, les syndicats qui commencent à se développer donc dans les années justement 1897 sont des syndicats, comme l'a dit Christine Lévy, qui sont surtout centrés sur l'industrie lourde, Hein, c'est le Tekko Kumiai, par exemple, c'est le syndicat des métallos, qui évidemment repose sur des formes qui existaient déjà, mais sont quand même des formes relativement nouvelles qui sont importées quand même fondamentalement de l'extérieur, hein, par ces intellectuels progressistes, souvent socialistes, dont a parlé aussi Christine, et qui viennent imposer une nouvelle forme quand même. C'est quand même des formes relativement nouvelles. Hein.
Et alors, quelles avancées permettent-ils ?
Alors, le problème, c'est que ces syndicats vont être très rapidement réprimés. Il y a une loi en 1900, notamment l'article 17 de la loi loi de police sur la sécurité de 1900, qui réprime spécifiquement ce genre d'association. Et donc, il va y avoir une politique de répression extrêmement féroce qui fait que ces syndicats vont avoir énormément de mal à s'exprimer. Et en fait, il va falloir attendre la Première Guerre mondiale pour voir une seconde vague de syndicalisation et d'activité syndicale.
Et alors, selon vous, Bernard Thomann, ce sont finalement moins les mouvements ouvriers ou paysans qui vont permettre l'émergence de réformes sociales que les élites bourgeoises ?
Oui, parce que on peut considérer véritablement que la première loi sociale du Japon concernant les usines, la loi de 1911, hein, la Kōjō-rō, la loi sur les usines, a été avant tout motivée par des considérations hygiénistes. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que dans les usines, il y avait des épidémies, notamment des épidémies de tuberculose, mais pas seulement, parfois des épidémies de peste aussi, avec le coton qui venait d'Inde, et qui effectivement mettait en danger la population dans son ensemble. Parce que souvent, lorsqu'une ouvrière était malade de la tuberculose, on avait tendance à la renvoyer dans son village. Et là, elle contaminait le restant de la population. Et donc, un certain nombre d'hygiénistes se sont rendus compte que si on voulait véritablement avoir une politique hygiéniste sérieuse au Japon, il fallait d'abord traiter ces lieux d'infection et de diffusion qu'étaient les usines.
Et avant cela, dès les années 1880, on commence à relier la pauvreté au phénomène d'industrialisation et d'urbanisation. Et c'est ainsi que se développe notamment une charité privée qui est supervisée par l'État.
Oui, bien sûr. La charité privée a joué un très grand rôle au Japon parce que le gouvernement japonais avait tendance à considérer que les personnes qui étaient en capacité de travailler ne devaient pas être aidées. Que ça pouvait encourager en quelque sorte la paresse. Et c'était un principe qui était au centre, par exemple, des règlements sur l'assistance de 1874. Simplement, ces mouvements de charité privée, de travail social, ont considéré, eux, que la question se trouvait justement auprès des populations qui étaient en capacité de travailler, de ces nouveaux prolétaires, de ce nouveau prolétariat industriel, et que si on voulait véritablement réformer la société, combattre les injustices, mais aussi renforcer la santé et la force de la nation, eh ben il fallait s'attaquer en priorité à ces quartiers de travailleurs, en fait.
Alors, on arrive presque au terme de cette émission. Un mot de conclusion, Christine Lévy. Quel regard vous porteriez peut-être sur ces métamorphoses qu'on a évoquées, économiques, sociales, durant l'ère Meiji? Est-ce que vous diriez que c'est parce que toute la société s'est mobilisée, donc à la fois les élites, mais aussi les populations ouvrières, paysannes, que le Japon a pu connaître de telles mutations en un temps si resserré, moins de 45 ans, donc?
Oui, mais disons que les différentes catégories de population ne se sont pas mobilisées dans le même sens. Mais il y a eu une capacité de l'État à aller dans un certain sens, c'est certain. La population, elle a suivi un mouvement de transformation qui était important, qui était lié bien sûr à l'industrialisation, à une volonté d'industrialisation, mais aussi à l'existence de classes sociales, de marchands qui se sont transformés en capitalistes au Japon de façon très efficace et très rapide, parce que il y avait déjà cette tendance qui existait dans le Japon, même d'Edo, hein. Il y avait des manufactures, il y a beaucoup d'analyses historiques sur le développement du capitalisme au Japon, hein, puisque les historiens se sont intéressés très vite à cet aspect de l'histoire du Japon. Donc, Je pense que ceux qui travaillaient, c'est-à-dire la paysannerie pauvre ou les ouvriers d'usine, ont cherché eux à améliorer leurs conditions de travail. Et donc il y a aussi un courant syndical. Donc parmi ceux qui étaient revenus des États-Unis, il y avait un courant socialiste important qui va lui-même se diviser en différents courants et qui va avoir une certaine influence dans un premier temps dans certains secteurs ouvriers, mais il y a aussi un courant syndicaliste qui prône, c'est le cas de Tanaka Fusatalo, qui prône surtout l'élévation des salaires pour que la modernisation se fasse au profit de la classe ouvrière et qui défend l'idée qu'il faut développer un marché intérieur pour que le Japon devienne une puissance industrielle conséquente et qu'il faut donc une augmentation des salaires pour, dans l'intérêt même de, du capitalisme japonais.
On en reparlera dès demain, Christine.
Plutôt après-guerre.
Voilà, et bien justement, ce sera notre sujet demain, les mutations du capitalisme japonais après la Seconde Guerre mondiale. Et c'est l'heure de retrouver Arjuna Andrade pour les nouvelles de l'Écho. Bonjour Arjuna.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Vous avez choisi de revenir aujourd'hui sur une annonce fracassante du géant du prêt-à-porter, le japonais Uniqlo.
Absolument, la société japonaise a annoncé la semaine dernière sa volonté d'investir 770 millions d'euros dans un grand plan de robotisation et d'automatisation de ses entrepôts au Japon et ailleurs. Cet investissement massif doit lui permettre de s'armer face à son principal concurrent, le géant américain Amazon, qui occupe une place chaque jour plus importante dans le secteur de la mode en ligne. Un système qui permettra surtout au groupe Nippon de réduire drastiquement ses dépenses en personnel, car bien sûr cette automatisation en marche forcée ne se fait pas sans conséquence sur l'emploi. Dans son entrepôt pilote d'Ariake à Tokyo, la robotisation a entraîné une réduction de près de 90% du nombre de salariés.
Paradoxalement, les robots sont présentés au pays du soleil levant comme une solution face au manque de main d'œuvre.
Oui, c'est même un argument largement diffusé au Japon qui voit dans cette modernisation une réponse à la pénurie de main d'œuvre dont nous parlions d'ailleurs hier. Mais investir dans la production mécanisée, c'est surtout une manière de faire des économies de long terme. Une fois l'investissement réalisé, pas de cotisation à payer, pas de baisse de productivité ou encore pas de risque de grève. Sans revenir sur le problème évident que pose la mise en concurrence des hommes et des machines dans une quête effrénée et infinie vers toujours plus de productivité, on peut cependant pointer que s'il est aisé de remplacer le travail humain dans la logistique ou l'industrie, la question est tout autre lorsqu'il s'agit de soigner les personnes âgées ou de s'occuper de jeunes enfants. Or, ce sont justement ces secteurs qui connaissent les plus importants besoins en main-d'œuvre. En réalité, passer de l'industrie au service, de la manutention à la relation, ne revient pas seulement à doter les machines de parole, c'est croire en la possibilité d'un échange, d'une identification, d'une forme de sympathie réciproque entre robots et humains.
Les ingénieurs ne se laissent cependant pas impressionner par cette faille qui sépare toujours humains et robots.
Effectivement, cela ne semble pas inquiéter outre mesure les roboticiens et autres chercheurs prométhéens qui nous prédisent que tôt ou tard, robots et humains coexisteront dans toutes les strates de la société. Une volonté de coexistence qui passe en réalité par un travail sur la forme et l'apparence des robots et notamment sur l'achèvement d'un faciès de plus en plus ressemblant au visage humain.
Les spécialistes de la robotique s'accordent pour expliquer que la forme humanoïde serait plus facilement acceptée.
Oui, il semblerait que le cerveau humain ait de nombreuses fonctions lui permettant de reconnaître d'autres humains, des semblables avec qui il lui serait naturel d'échanger. C'est aussi l'idée que l'on retrouve chez le philosophe Emmanuel Lévinas qui expliquait dans Totalité et Infini que le visage est ce qui nous ouvre à autrui. C'est une irruption de l'autre dans notre existence, autre que nous reconnaissons comme notre semblable, grâce à ce visage qui ne se laisse pas enfermer dans une pure forme, mais qui déborde, selon l'expression du philosophe. C'est donc ce débordement que les concepteurs et les producteurs de robots s'entêtent à saisir, à capturer et à reproduire.
Une quête qui pourrait cependant être contre-productive.
Oui, si on en croit le grand théoricien de la robotique, le japonais Masahiro Mori, celui-ci exprimait en effet dès 1972 la théorie selon laquelle plus un robot androïde est similaire à un être humain, plus ses imperfections nous paraissent monstrueuses. Cette théorie, baptisée du nom poétique de Vallée de l'étrange, exprime ainsi l'idée que mise en présence d'une machine qui tenterait de reproduire avec trop de perfection la réalité du visage, l'observateur serait en réalité saisi d'un profond malaise face à ce robot trop humain. Une idée à garder à l'esprit alors que, face au vieillissement de sa population, le Japon envisage de recourir massivement à ses robots humanoïdes, non seulement dans les services d'accueil, mais aussi pour s'occuper de ses personnes âgées, au risque pourtant d'encore plus les isoler.
C'est C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup Bernard Thomann et Christine Lévy d'avoir retracé pour nous la grande époque de la modernisation du Japon. Bernard Thomann, je rappelle votre livre paru aux presses de Sciences Po, La naissance de l'État social japonais, biopolitique, travail et citoyenneté dans le Japon impérial 1868-1945. Et le vôtre, Christine Lévy, Genre et modernité au Japon, publié aux presses universitaires de Rennes. N'hésitez pas à réécouter, écouter nos émissions et notamment celle d'hier consacrée au Japon féodal de l'ère Edo et les chemins de la philosophie d'Adèle Van Rett qui consacre également cette semaine à la pensée japonaise. Et on vous attend sur Twitter pour en discuter. Hashtag Entendez-vous l'écho.